De Radio Classique avec David Abiker.
Et surtout avec nos esprits libres à 8h40 presque sur Radio Classique, nos esprits libres en ce mercredi de lendemain de nuit blanche parlementaire. Il s'agit de Ruth Elkrief, éditorialiste à LCI. Bonjour,
bonjour
Ruth.
Bonjour,
et
David.
Marc Lambron, l'homme du bon usage de la langue française sur Radio Classique et surtout notre académicien préféré. Je dois vous dire, Marc, que depuis que vous faites cette chronique, dès que je fais une faute de français ou que j'emploie un anglicisme ou qu'un invité ou un chroniqueur sur cette antenne emploie un anglicisme ou maltraite la langue française, on nous renvoie chez vous comme des arroseurs arrosés. Je ne vous dis pas merci et en même temps je vous adore.
Je vous remercie, mais vous aurez remarqué que ce n'est pas une chronique prohibitive, c'est une chronique incitative sur la richesse de notre idiome.
Quelle sagesse, Marc Lambron.
Alors, je vais faire très attention et déjà je me suis fait reprendre.
Je vais vous donner la parole tout de suite, Ruth Elkrief, puisque vous l'avez prise. Quelle cicatrice cet épisode va-t-il laisser ?
Une forme de traumatisme à l'intérieur de la majorité qui n'a pas voté d'un seul homme ou d'une seule femme pour ce texte. Mais en même temps, Emmanuel Macron n'a pas non plus reculé devant l'obstacle comme ça aurait pu être le cas sous la pression d'un certain nombre de ses amis qui lui demandaient de retirer le texte. Donc il n'a pas été non plus faible, malgré tout, pour répondre à une question que se pose et qui est dans les préoccupations des Français. On peut discuter évidemment du contenu du texte, et il y a des choses qui choquent un certain nombre de ses amis, qui d'ailleurs ne l'ont pas voté, se sont abstenus ou voté contre. Mais en même temps, il y a un certain nombre de choses dans ce texte qui correspondent à des attentes et qui étaient dans le texte originel. Donc oui, c'est une forme de crise majeure, qui montre aussi les limites du en même temps, qui montre aussi la fragilité du macronisme. Peut-être est-ce la fin du macronisme d'ailleurs, de toute façon, avec un retour du clivage droite-gauche, y compris au sein de sa propre majorité. Mais tout cela était logique, était attendu, était prévisible. La question est, que se passe-t-il pour le prochain texte ?
Marc Lambron.
Bon, quelques remarques. D'abord, rééquilibrage institutionnel au profit du Sénat. C'est quand même son texte qui a été discuté avec les LR comme levier. Deuxièmement, oui, il y a une droitisation de la Macronie, mais à mon avis, le texte correspond assez au sentiment qui est exprimé par les Français à 63%, c'est-à-dire une perplexité ou une inquiétude devant l'immigration. Donc finalement, le 2 sur 3 de Giscard, qui était son rêve, on pourrait dire qu'il est rassemblé, réuni sur ce texte.
Malgré lui ?
Peut-être malgré lui. Le 2 sur 3 malgré lui, comme le médecin Moliéresque. Après, moi je crois qu'il y a une chose, il y a un fond de sauce, c'est que ce texte rencontre un écho sans doute moins sur le contrôle des flux futurs que sur une inquiétude présente qui concerne en réalité les immigrés déjà présents ou certains qui sont devenus français ici et maintenant, c'est-à-dire en réalité les exactions salafistes répétées. Je crois que c'est le fantôme de ce débat. Bon, une ou deux autres remarques encore, c'est que la gauche, par sa tactique, aura contribué à la naissance d'un texte qui offusque encore plus ses convictions. Bravo l'artiste. Et puis on voit aussi qu'il y a un désir d'alternance qui se cristallise sur un RN qui est en train de jouer la normalisation. Je voudrais peut-être dire une dernière chose en faisant du Google Earth, mais à l'envers.
Alors le Google Earth, c'est ce logiciel qui permet d'observer la Terre vue du ciel.
Voilà.
Et de repérer l'endroit où on est né quand on était petit, par exemple.
Eh bien, si nous observons la Terre vue du ciel, mais là je vais élargir la focale, je crois qu'il y a quand même une question aujourd'hui globale sur la civilisation. C'est-à-dire, ce qui est en cause avec ce texte, c'est quand même l'étranger. C'est l'autre. Dans un moment où les empires se durcissent, où la guerre revient, en Ukraine, en Israël, je crois que nous entrons malheureusement dans une ère de l'altérité belliqueuse. Ça pose la question de l'autre. Alors, avec une Europe assez déconcertée, Hubert Védrine aime à dire que nous sommes des bisounours dans un Jurassic Park. Et ça va aussi avec une saturation démographique par le Sud. Moi, quand je suis né, nous étions, d'ailleurs dans les années 50-60, 3 milliards sur la planète. Nous sommes maintenant entre 8 ou 9. Donc, il y a aussi l'altérité, c'est une promiscuité. Et nous allons vers des années sans doute compliquées.
Je vais vous provoquer un peu, mais enfin, c'est pas parce que la France est dotée d'une loi immigration, la 117e, que les Français aspirent à maîtriser le destin des flux et des gens qui arrivent chez eux. Ce que font les Canadiens, les Américains, américains depuis belle lurette.
Cette loi ne va pas aussi loin que ce que font les Canadiens, les Américains.
Je sais, mais
ils
le font depuis longtemps. On n'a jamais crié
pourtant,
au fascisme, à la droitisation.
Et pourtant, exactement, elle soulève des émotions et des grands cris, alors que elle veut dire, elle envoie le message aux Français que on essaye de reprendre le contrôle de ces flux migratoires, ce qui est demandé. Ce qui est demandé par les Français, c'est la fin de l'impuissance publique. Le sentiment que on n'arrive jamais à contrôler ou ses frontières, ou la délinquance, ou le salafisme, etc. Et je ne mets pas tout exactement au même niveau, mais il y a évidemment des ponts. Et donc, le message envoyé par ce texte, c'est de dire on est responsable, on ne laisse pas faire et on décide qu'il faut reprendre ce contrôle-là et on n'est pas impuissant. C'est pour ça que le retrait de ce texte tel qu'il a été demandé instamment hier soir par un certain nombre d'amis d'Emmanuel Macron aurait été une catastrophe parce qu'il aurait été un aveu d'impuissance complet.
Moi, ce qui me fascine, c'est quand j'entends la gauche hier, Mathilde Panot et un certain nombre d'autres, vraiment se désoler, crier, s'indigner, comme si la France n'avait pas le droit de choisir qui vient chez elle, dans quelles conditions, sur quel type de secteur, sur quel type de métier, avec quel type d'aide. On a l'impression qu'on a renoncé hier soir à tous les principes de la République, des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Enfin bon, bref, que vraiment, gros péché hier parlementaire et gros péché gouvernemental. Est-ce que vous partagez cet étonnement qui est le mien ?
Ce qui est intéressant, c'est la cristallisation sémantique sur le mot préférence nationale. Et la façon dont, d'ailleurs, les RN essaient de récupérer ou de cannibaliser ce qui s'est passé. La préférence nationale, elle existe de longue date. Si vous prenez, dans le bloc juridique, si vous prenez, par exemple, les expulsions, on peut expulser un étranger, on n'expulse pas un national. De la même façon, dans les critères d'accessibilité à la nationalité, bien sûr qu'il y a une sorte de préférence. Je veux dire que celui qui arrive n'est pas sur le territoire, n'est pas immédiatement français. Il y a des critères de durée, il y a des critères d'apprentissage de la langue, il y a des critères d'intégration. Bon, donc la préférence nationale, évidemment qu'elle existe. Ce qui est aussi à l'horizon, à mon avis, c'est ce qui est une chose plus sérieuse sans doute, c'est la gouvernabilité par le Front National. C'est-à-dire, est-ce que ce parti qui joue la normalisation aurait les moyens dans 3 ans de gouverner. Et j'ai quelques doutes là-dessus.
En tout cas, ce qui me frappe, c'est que la gauche qui a lancé effectivement des grands cris d'orfraie sur ce texte est en partie responsable de la situation, puisqu'elle a laissé la question de l'immigration à l'extrême droite et qu'elle a considéré qu'elle était taboue, qu'elle a considéré que c'était une question qui ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas régler, et elle en a fait une question morale avant d'avoir fait une question politique, alors que c'est une question politique et que les pays, chaque pays a le droit de considérer ses frontières, et en l'occurrence il s'agit de frontières européennes, et la préférence nationale ça ne veut rien dire, on parle de préférence européenne, donc tous les citoyens européens ont les mêmes droits en Europe, et il s'agit de préférence européenne, en l'occurrence, qui est passée concrètement de 6 mois à 2 ans et demi pour un étranger hors Europe qui travaille pour obtenir les allocations familiales. On peut être choqué, j'entends, mais on n'est pas non plus à l'aube du fascisme. Il faut se calmer. Et si on arrive à cette situation aussi difficile, c'est parce que un certain nombre de partis, un certain nombre, et Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il accueille, lorsqu'il prend à revers Manuel Valls, qui s'étonne que Angela Merkel accueille 1 million d'immigrés syriens après la guerre, et qui dit peut-être qu'il faut faire attention, que c'est un peu compliqué, et qu'Emmanuel Macron dit mais non, mais enfin voyons, c'est une chance pour l'Europe et pour la France, ce qui va peut-être être le cas, mais un peu plus tard. Emmanuel Macron est pris à son propre piège. Il n'a pas voulu considérer cette question de façon sereine, froide et objective. Il y a mis aussi, comme les autres, de l'affect. Donc aujourd'hui, en essayant de faire un texte qui peut être discutable, qui n'est pas le sien, mais qui ne pouvait pas être autrement, puisqu'il n'a pas de majorité, et c'est ça dont il s'est rendu compte hier et qui est difficile à avaler, mais c'est la réalité, la question de l'immigration est abordée, elle est traitée.
Attends, on va pas reprocher à la gauche d'être la gauche. Dans la pensée de gauche, il y a quand même l'angélisation du damné de la terre, et il y a une préférence non pas nationale mais victimaire.
D'où ça vient d'ailleurs? D'où ça vient cette fascination, cette affection, cet humanisme de la gauche pour celui qui n'a pas de patrie? C'est une charité chrétienne redigérée.
Oui, c'est ce que disait Chesterton au début du XXe siècle, que c'est que la gauche était pleine d'idées chrétiennes devenues folles. Et il y a sans doute ce fond évangélique, en effet, dans la gauche, y compris la gauche marxiste, redistributrice, humaniste, et la considération charitable pour l'opprimé. Oui.
Il y a ce soir sur France 5 une émission qui ressemble un peu à la scène catholique, puisque des apôtres partagent un repas autour d'une animatrice, et c'est là que le président se rend pour prendre la parole, et sans doute une initiative politique, ou en tout cas s'exprimer au sujet de cette séquence politique. Macron dans C'est à vous, ce soir sur France 5. Que vous inspire ce choix, cette prise de parole et ce choix?
Alors l'idée, c'est, selon ce communicant, c'est de ne pas parler que de cela. Voilà. C'est-à-dire que c'est être dans une émission globale dans laquelle il va évoquer tout le reste, de l'actualité, l'inflation, le pouvoir d'achat, les guerres, et aussi la loi sur l'immigration, au passage, en quelque sorte.
Comme nous, il va éditorialiser.
Est-ce qu'il va enjamber?
Non,
est-ce qu'il va enjamber
non,
la séquence?
Il ne peut pas l'enjamber. Mais il est de façon plus confortable que s'il avait retiré le texte. Et puis, il essaiera de, j'imagine, enfin, j'espère en tout cas, qu'il essaiera de défendre ce qui est un texte qu'il a fait voter avec instamment par ses troupes. Mais la vérité, c'est que la question est maintenant celle de sa fragilité au pouvoir, au sens il n'a pas de majorité, il ne l'avait pas hier, il ne l'a pas non plus demain. Oui, il a obtenu une majorité simple, sans les voix du Rassemblement National, 261 voix pour faire voter ce texte, mais si le Rassemblement National avait voté contre, ce texte ne serait pas passé. Donc de toute façon, à chaque loi, il va y avoir une question. Donc la question qui se pose pour lui aujourd'hui, c'est va-t-il conclure une forme d'alliance avec les Républicains et éventuellement quelques modérés de gauche d'une façon ou d'une autre pour continuer à travailler pendant les 3 ans qui viennent, ou va-t-il continuer sur un fil à jongler texte après texte ou idée après idée jusqu'à ce qu'il tombe?
Nous avons un beau passé devant nous qui s'appelle la 4e République, c'est-à-dire l'acclimatation de notre culture politique, d'une chose oubliée, qui est la recherche de la coalition ou du compromis, éventuellement texte par texte. D'ailleurs, il n'est pas exclu de que se succèdent des majorités tournantes et optionnelles, en quelque sorte, d'occasion sur tel ou tel texte. C'est ça aussi la culture parlementaire.
Alors, c'est ce qui s'est fait d'une certaine façon sur un certain nombre de textes depuis le début.
Oui.
Mais lorsqu'il veut proposer un texte, notamment régalien, sur les questions régaliennes, on voit bien que c'est compliqué parce que son en même temps et sa majorité est traversée, en fait, par le clivage droite-gauche, tout simplement, et qu'il ressurgit. D'une certaine façon, c'est assez sain parce que c'est aussi un des clivages qui existe dans la société française.
Et puis, on peut pas tout prévoir, puisqu'on a quand même un président qui est assez résilient. Je faisais la liste des crises depuis qu'il est au pouvoir. La crise des gilets jaunes, la crise du Covid, la crise des retraites, les crises stratégiques liées à la guerre en Ukraine, et maintenant une crise parlementaire, on a envie de dire une petite crise parlementaire. Bon, est-ce que vous pensez que le malaise de ce deuxième quinquennat est né de cette campagne non faite en 2022?
Sans aucun doute. Sans aucun doute, Emmanuel Macron s'est arrêté d'essayer de nous convaincre le soir de sa victoire du deuxième tour. Il a complètement posé le stylo.
Avant même, dès que la guerre en Ukraine a été déclarée par Moscou.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, vous parliez de campagne. Il a cherché à être réélu. Ce qui s'est bien passé pour lui, avec des stratégies qui sont très discutables aussi. Et puis ensuite, il a posé le stylo. Et puis il a cru qu'il aurait une majorité, ce qui n'a pas été le cas. Et il a dû improviser.
La circonstance a déréglé deux choses qui étaient au cœur de la Ve République. Un, c'est le septennat. Alors là, nous passons à un quinquennat. Et deuxièmement, ce qu'on appelait le fait majoritaire. Et c'est-à-dire le fait de donner une majorité automatique au président élu ou réélu. Donc là, nous sommes, le puits est un peu brouillé, là, l'eau du puits. Oui.
Je voudrais qu'on parle de l'emploi des seniors. Il en sera beaucoup question à la fin de la semaine. C'est un des sujets de Bruno Le Maire et du gouvernement. Alors, quand je dis l'emploi des seniors, on va faire un exemple avec un certain Jacques Lang, oui, dont on apprend depuis hier qu'il est candidat pour un quatrième mandat à la tête de l'Institut du Monde Arabe et qu'il a été nommé sur décision d'Emmanuel Macron, alors qu'il y avait Jean-Yves Le Drian, qui sans doute était trop jeune, puisque Jacques Lang a quand même 84 ans. Alors, je ne fais pas du tout d'agisme, hein, je trouve que c'est très bien de travailler jusqu'à la fin si on en a l'énergie, mais tout de même, est-ce que vous avez une raison sur cette longévité ?
Oui, il y en a, à mon avis, il y en a quatre. D'abord, Macron, c'est l'homme des pérennités sélectives, c'est-à-dire qu'il aime bien bouleverser les lignes, mais en même temps, il est content de voir qu'Alexis Kohler est là depuis le ministère des Finances, il est content que Catherine Pégard soit à Versailles, et il est assez content, finalement, que Jacques Lang reste dans le paysage.
Catherine Pégard n'a pas 84 ans.
Non, mais elle est prolongée au-delà des limites légales. Deuxièmement, il y a quand même les Jeux Olympiques. Et je pense que dans un certain nombre de cas, c'est plus opportun de laisser en place des gestionnaires expérimentés. Bah, il y aura une parade sur la Seine. Il pourra l'avoir depuis sa terrasse.
Il est recordman, à sa façon, il est recordman.
Troisièmement, il y a quand même l'IMA, c'est spécial, parce qu'il y a des pays financeurs. Et que l'on sache, Jacques Lang a dû faire un lobbying, une campagne assez efficace, notamment auprès du Maroc. Il a les faveurs des autorités marocaines, alors que notre diplomatie n'est pas très chaude en ce moment avec le Maroc. Et dernière chose, ça a été le ministre des artistes. Et une chose qui n'a pas été dite pendant le débat sur les retraites, c'est que dans les métiers de vocation, on n'arrête jamais. Si vous dites à un écrivain, un compositeur, un peintre, un cinéaste qui doit arrêter à 64 ans, il va le vivre comme une destitution. Eh bien, Jacques Lang a 20 ans de plus, c'est le ministre des artistes pour toujours.
Le dernier mot très vite, Ruth Elkrief.
Je veux juste faire remarquer que la ministre de la Culture, pendant le même temps, monte un programme qui s'intitule La Relève et qui est pour former des cadres de la culture de 25 à 40 ans venus de la diversité. Donc il y a un petit paradoxe, mais Jacques Lang adore se décrire comme le Joe Biden de la culture, et surtout je crois que Emmanuel Macron l'a nommé aussi parce qu'il a cette phrase magnifique: quand je suis quelque part, je suis là pour l'éternité. Emmanuel Macron en rêve.
La momie, la vallée des rois.
Mes chers esprits libres, on va se quitter avec un extrait de West Side Story, comédie musicale de Leonard Bernstein, adapté au cinéma, clin d'œil au film biographique diffusé à partir de ce soir sur Netflix. Ça s'appelle Maestro. J'ai hâte de vous retrouver, chère Ruth et chère Marc, à très vite.
Maria, 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 say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria.
Radio Classique, il est 8h57 sur Maria de West Side Story, Leonard Bernstein. Je dis au revoir à nos esprits libres. Et je ne vous ai pas signalé cette dépêche d'importance. Elisabeth Borne, invitée sur la radio du service public, a déclaré: j'ai le sentiment du devoir accompli. Il n'y a pas de crise dans la majorité. On souhaite avancer. Moi, j'entends n'importe quoi. Le PR, le président de la République, n'a pas reçu la démission d'Aurélien Rousseau. C'est un non-sujet. Je ferme les guillemets. Radio Classique, 8h50.